France Culture.
Et on fait le point sur l'info, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Face aux ambitions assumées, répétées de Donald Trump de jeter son dévolu sur le Groenland, plusieurs pays européens ont lancé ce matin une mission militaire d'exploration sur l'île. En clair, ils ont acté l'envoi de soldats européens pour contrer la menace américaine, une décision totalement inédite. S'agissant de l'Iran, en revanche, Donald Trump semble la vouloir désormais jouer la montre après avoir brandi la menace d'une intervention. L'actualité en France sont toujours les tractations autour du budget. On détaillera par ailleurs les principales mobilisations des agriculteurs. Plusieurs actions se poursuivent encore ce matin. Nous serons également au tribunal correctionnel de Marseille pour le dénouement judiciaire de la plus grande escroquerie immobilière. Enfin, avec notre invité, on parlera de la confiance des Français dans les médias. En menaçant d'utiliser la force contre ses ennemis comme ses amis, Donald Trump n'en finit plus, décidément, de défier ouvertement l'ordre établi, jusqu'à renvoyer le monde à ses vieilles habitudes avec le retour brutal des sphères d'influence. Venezuela, Iran, Groenland, la liste témoignant de ce retour aux États-Unis de l'impérialisme des ressources est déjà longue. Dernière illustration en date hier, en recevant à la Maison-Blanche les responsables danois et groenlandais, l'administration américaine n'aura fait au fond qu'acter un désaccord fondamental entre les parties sur l'avenir de l'île, en répétant sa volonté inébranlable d'annexer ou de conquérir, selon la terminologie employée, le territoire autonome. C'est donc face à ce constat qu'une mission militaire européenne a été lancée dès aujourd'hui. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège ont annoncé le déploiement de troupes au sol pour une mission de reconnaissance.
Exactement Thomas, et les premiers soldats français sont déjà arrivés sur place, a fait savoir l'ambassadeur de France au pôle et aux océans, Olivier Poivre d'Arvor. Ils sont une quinzaine à appartenant à des unités de montagne aguerries au climat froid. D'autres suivront, a fait savoir Emmanuel Macron sur le réseau social X. L'Allemagne, elle, a décidé d'envoyer 13 militaires de la Bundeswehr au Groenland. Le Royaume-Uni a également dépêché un officier sur place. Ces différents déploiements s'inscrivent dans le cadre de l'exercice danois Arctic Endurance qui démarre aujourd'hui et se poursuit jusqu'à samedi prochain. Il s'agit d'une mission de reconnaissance pour évaluer la sécurité de cet immense territoire et notamment les capacités de surveillance maritime. L'Allemagne pourrait dépêcher sur zone son P-8A Poséidon, un avion de patrouille en mer et de lutte anti-sous-marine. Cet exercice militaire des pays européens de l'OTAN a été ordonné en raison des menaces russes et chinoises, précise le ministère allemand de la Défense dans un communiqué qui n'évoque pas les convoitises de Donald Trump. De son côté, la Russie a fait part de sa sérieuse inquiétude concernant l'envoi de ses personnels militaires de l'OTAN au Groenland sous prétexte imaginaire d'une menace croissante de Moscou et de Pékin, selon les mots d'un communiqué de l'ambassade russe à Bruxelles.
Merci Christian Chéneau. S'agissant de l'Iran, cette fois-ci, si le mouvement de contestation et les menaces répétées de Donald Trump contre le guide suprême ont pu raviver un temps les craintes d'un embrasement régional, les derniers propos du président américain hier assurant que les tueries ont pris fin à Téhéran laissent à présent planer le doute quant à la nature réelle des coups de menton et plus encore des coups de bâton promis par le locataire de la Maison Blanche au régime des Mollahs. De quoi laisser désormais dans l'expectative les milliers d'Iraniens qui, au péril de leur vie, ont osé se lever ces dernières semaines pour défier un pouvoir politique sclérosée, monopolisée par une petite élite théocratique. D'où l'inquiétude formulée par la prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, dans un entretien à la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle. L'ancienne juge et avocate iranienne réclame expressément aux États-Unis d'intervenir pour mettre fin au bain de sang. On l'écoute.
Ce que nous demandons et ce que nous voulons, ce sont des mesures qui empêchent le massacre des Iraniens. Les États-Unis peuvent perturber les systèmes de communication. Cela aiderait à mettre fin à la propagande du régime. L'autre option, c'est la possibilité de mener des actions extrêmement ciblées contre le guide suprême d'Iran et des commandants supérieurs des gardiens de la Révolution. Empêcher le massacre du peuple iranien ne nécessite pas une guerre totale. Cela ne suppose pas de tuer davantage de personnes. Ce que nous voulons, ce n'est pas une guerre, mais que l'on arrête de tuer des gens.
Shirin Ebadi, lauréate iranienne du prix Nobel de la paix 2003, elle répondait à nos confrères de la Deutsche Welle.
Et elle s'est vue attribuer la célèbre récompense du comité Nobel de Norvège l'an dernier.
Oui, elle, c'est Maria Corina Machado, l'opposante vénézuélienne en exil, sera reçue aujourd'hui par Donald Trump. Alors depuis la capture de Nicolas Maduro, aujourd'hui détenu aux États-Unis, le président américain a toujours préféré l'écarter de sa stratégie interventionniste, mais il pourrait espérer malgré tout un geste de sa part, qu'elle lui cède sa distinction, qu'il estime mérité plus que quiconque. En attendant, 10 jours après l'opération des forces spéciales américaines est passée la stupéfaction, les langues commencent à se délier au sein de la diaspora vénézuélienne. C'est le cas en Espagne, où vit la première communauté d'Europe. Là-bas, les victimes de la dictature s'organisent pour dénoncer les exactions et accélérer les procédures judiciaires contre le régime chaviste. C'est un reportage à Madrid, signé de notre correspondant Mathieu de Taillac.
Les familles de victimes réunies hier à Madrid veulent d'abord évoquer la mémoire de leurs enfants tués par le régime de Nicolas Maduro, exécutés, racontent-ils, par les balles de la police et de l'armée lors de manifestations. David Vallenilla, par exemple, père de David José.
Que él estaba solo y fue emboscado de un lado de la tal cual.
Il était seul et ils l'ont pris en embuscade, comme un prédateur qui pourchasse sa proie. À moins de 2 mètres, ce militaire lui a tiré dans la poitrine. C'est un sergent de l'aviation sans compétence pour attaquer, ni pour contrôler une manifestation.
Israel Canizales, le père d'Armando, raconte un schéma presque identique.
Tout à coup, se produit une détonation. On entend un tir, et le tir lui perfore le cou. Ce malheur qui s'est abattu sur nous est arrivé chez nous et ne nous a pas abandonnés une seule minute. Nous sommes des survivants. Nous apprenons encore à vivre avec ces sentiments.
C'est dans un grand cabinet d'avocats que la rencontre avec la presse est organisée, car les victimes se mobilisent pour traduire Nicolas Maduro devant la Cour pénale internationale. Le dossier a trop traîné, disent les avocats de Cremades et Calvo Sotelo, déposé en 2018 et toujours dans l'attente que soit émis un mandat d'arrêt international.
Après 40 années au pouvoir, le président ougandais n'a pas l'intention de rendre les clés du château.
Yoweri Museveni, 81 ans, un ex-guerriero, est en lice aujourd'hui pour un 7e mandat, une formalité a priori compte tenu de son contrôle total exercé sur l'appareil d'État, en particulier grâce aux intimidations généralisées. Les bureaux de vote n'ont d'ailleurs toujours pas ouvert. Par ailleurs, depuis mardi déjà, les autorités ont coupé l'accès à Internet, alimentant ainsi davantage encore les craintes de nouvelles manipulations électorales.
Midi 37 sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Comme attendu, les députés ont rejeté hier les 2 motions de censure déposées contre le gouvernement, l'une par la France Insoumise et l'autre par le Rassemblement National. Un soulagement de courte durée, toutefois, pour l'exécutif, toujours à la recherche d'un perpétuel compromis pour assurer sa survie. Sans compter qu'après déjà une dissolution ratée, la censure de Michel Barnier, la chute de François Bayrou et l'invraisemblable faux départ du gouvernement Le Cornu 1, l'histoire récente est là pour se rappeler aux mauvais souvenirs de la Macronie et lui faire douter de ses chances réelles de parvenir dans l'hémicycle à un consensus autour du budget. C'est donc dans ce contexte que le Premier ministre recevra cet après-midi le patron de l'une des organisations représentatives les plus atterrées par cette situation et qui le fait savoir d'ailleurs régulièrement, Patrick Martin, le président du MEDEF. La rencontre est prévue à 15h à Matignon et les sujets de discussion, Marie Viennot, ne devraient pas manquer.
Alors que le contexte international est si anxiogène, Patrick Martin se dit d'abord interloqué par les atermoiements de l'exécutif. Pourquoi ne pas avoir mis le vote du budget dans la négociation qui a conduit à tirer un trait sur la réforme des retraites, s'interroge-t-il. Et comment est-ce possible de ne pas trouver quelques milliards d'économies sur les quelques 1670 milliards d'euros de dépenses publiques annuelles? C'est une autre interrogation, doublée d'une demande, ne pas augmenter la fiscalité sur les entreprises. Patrick Martin.
On est parti pour avoir une reconduction de la surtaxe d'impôt sur les sociétés. Je rappelle que l'Allemagne va baisser son taux d'impôt sur les sociétés. Les États-Unis ont baissé leur taux d'impôt sur les sociétés. Donc on est dans une compétition mondiale, il faut la prendre en compte et ne pas se livrer à des arbitrages budgétaires qui vont dans le sens de la facilité à court terme, mais qui peuvent nous menacer à long terme.
Autre sujet, les négociations qui viennent de démarrer pour l'assurance chômage.
On avait reçu une lettre de cadrage du Premier ministre Bayrou, qui est toujours en vie, si je puis dire, cette lettre de cadrage. Donc il y a une espèce de confusion, y compris sur le plan juridique, quel est le référentiel auquel on doit s'intéresser, premier point. Deuxième point, là où il nous est demandé dans la lettre, ça n'est qu'une lettre que nous a adressée le ministre du Travail, 400 millions d'économies, nous on considère qu'il faut aller chercher un peu plus et on a donc demandé de pousser l'objectif à 1 milliard.
Outre les discussions sur les ruptures conventionnelles, le MEDEF souhaite rouvrir le débat sur le régime des intermittents du spectacle. Enfin, toujours échaudé par l'échec du conclave sur les retraites, le MEDEF n'envisage pas de rejoindre le cycle de conférences Travail, Emploi, Retraite, lancé par Matignon en novembre dans l'espoir de relancer sous sa coupe le dialogue social.
Les épargnants connaîtront aujourd'hui le nouveau taux du livret A applicable au 1er février.
Et qui risque vraisemblablement de baisser à nouveau, conséquence directe du ralentissement ralentissement de l'inflation, voilà qui ne devrait pas réconcilier les quelques 57 millions de Français encore détenteurs du fameux petit livret rouge avec un produit d'épargne autrefois certes très populaire mais de plus en plus boudé à présent au profit notamment des contrats d'assurance vie. Une véritable aubaine en revanche pour les banques, lesquelles rémunèrent une partie de l'épargne réglementée et surtout commercialisent des produits concurrents plus lucratifs pour elles. Bien que le gouvernement eût annoncé une série de mesures et notamment une loi d'urgence, des agriculteurs restent toujours mobilisés. Ce matin, deux actions particulières sont actuellement en cours dans des dépôts pétroliers dans la Marne et en Indre-et-Loire. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors, on connaît les motifs de cette fronde paysanne, le refus de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, mais aussi le rejet de la stratégie gouvernementale pour combattre l'épizootie de dermatose nodulaire. Mais pas seulement, plusieurs rassemblements sont également prévus aujourd'hui par la Confédération paysanne pour protester, Catherine, contre l'interpellation hier de 52 manifestants après avoir pénétré dans une annexe du ministère de l'Agriculture à Paris.
Oui, les gardes à vue viennent tout juste d'être levées. Les personnes arrêtées sont en train de sortir en ce moment même. Parmi eux, il y avait les trois porte-parole nationaux du syndicat. Alors, cette occupation hier, avec cette occupation, les agriculteurs de la Confédération paysanne voulaient dénoncer et la politique agricole du gouvernement et ce qu'ils désignent comme l'accaparement des subventions publiques par un petit nombre d'exploitants et d'agro-industriels. Comme l'avait déjà fait quelques jours plus tôt la coordination rurale, la Confédération paysanne dénonce des traitements inégaux selon les syndicats et des arrestations de leurs membres quand les céréaliers affiliés à la FNSEA, venus mardi avec leurs tracteurs devant l'Assemblée nationale, ont eux reçu la visite d'élus et une invitation chez le Premier ministre. Alors ce que montrent ces successions de mobilisations et leurs traitements par les autorités, ce sont plusieurs choses. D'abord, des méthodes différentes entre les syndicats, même si tous choisissent des actions directes particulièrement visibles, puisqu'ils n'ont pas la grève comme mobilisation possible. Et surtout un éclatement de la représentation syndicale, une concurrence accrue entre les organisations et des revendications extrêmement différentes. Depuis décembre, les manifestations agricoles à travers le pays ont été portées d'abord par la Confédération paysanne et la Coordination rurale, et beaucoup autour de la gestion de l'épizootie de dermatose bovine. Seulement de l'élevage et des revenus, il n'a pas été question dans les dernières promesses du gouvernement. De fait, ces mobilisations qui durent rappellent une fois encore qu'il n'y a pas les agriculteurs, mais des agriculteurs différents qui défendent des modèles de développement extrêmement différents. Ils n'obtiennent pas la même écoute du gouvernement. La FNSEA s'est réjouie que ces propositions résonnent, je cite, auprès des décideurs publics. De fait, la loi d'urgence agricole annoncée vise particulièrement les règles environnementales actuelles, cible récurrente de la FNSEA.
Merci Catherine Pétillon.
C'est aujourd'hui que le tribunal correctionnel de Marseille rendait son jugement dans l'affaire dite Apollonia.
Oui, soit la plus grande escroquerie immobilière et financière que la France ait jamais connue. Selon l'accusation, son préjudice dépasse les 1,2 milliard d'euros. Voilà près de 20 ans que les victimes attendaient de voir condamner les responsables de cette société qui proposait d'investir dans des logements soi-disant rentables. 750 parties civiles au total et ce matin, Mathilde Vinceneux, les peines les plus lourdes, 7 ans de prison ferme ont été prononcées contre un couple désignés comme les organisateurs et bénéficiaires de cette vaste fraude.
Jean Badache, 71 ans, et Viviane Badache, 69 ans. Le couple au cœur de l'escroquerie, condamné chacun à 7 ans de prison ferme et 2,5 millions d'euros d'amende. Le tribunal fustige leur indifférence à l'égard des victimes. Elles sont nombreuses dans l'immense salle d'audience. 750 parties civiles, médecins, chercheurs, enseignants qui ont fait confiance à la société Apollonia pour investir dans l'immobilier et qui se sont retrouvés ruinés. Deux notaires, un avocat et des commerciaux sont aussi condamnés à de la prison ferme. Jusqu'à 5 ans, des peines saluées par maître Christophe Gervolino, avocat de 200 familles parties civiles à ce procès.
C'est une victoire pour mes clients. Les clients, ils sont endettés en moyenne à 3 millions d'euros chacun. Ils ont tout perdu dans cette affaire.
Pour beaucoup de victimes, c'est la fin de la culpabilité. Culpabilité de s'être fait avoir. Pascal Hoffmann s'est effondré en larmes sur les bancs de la salle d'audience. Le tribunal a reconnu que son époux était bien mort à cause de cette escroquerie.
C'est bien ça qui enlève un poids très important qu'on portait tous en famille de pourquoi il est mort, c'est d'avoir reconnu que c'est l'affaire Apollonia. Ça m'a beaucoup soulagée.
Mais les parties civiles le savent, ce n'est pas la fin du combat judiciaire. Les avocats des époux Badache ont déjà annoncé leur intention de faire appel.
61% des Français ne font pas confiance aux médias sur les grands sujets d'actualité. C'est ce qui ressort du dernier baromètre publié ce matin. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Guillaume Caline, directeur enjeux publics et opinion chez Varian France et coordinateur donc de ce 39e baromètre en partenariat avec le journal La Croix. Bonjour monsieur.
Bonjour.
en réalité cette 39e édition. Donc reconduit un constat éprouvé maintenant depuis plusieurs années, où quand les personnes interrogées affirment qu'il faut se méfier du traitement médiatique des grands sujets d'actualité. Cette forme de suspicion préalable, elle concerne tous les médias.
Disons qu'elle concerne les médias quand ils sont pris comme une institution. Et c'est vrai que c'est un des paradoxes de la relation des Français à leurs médias, c'est quand on leur demande s'ils ont confiance dans les médias de manière générale, il y a un réflexe un petit peu pavlovien de suspicion à l'égard des médias, du système médiatique. Et finalement, cette défiance, elle n'est pas propre aux médias, mais elle est propre chez les Français à l'ensemble des institutions, que ce soit les partis, que ce soit le gouvernement. On observe souvent chez les Français un réflexe de méfiance. En revanche, quand on interroge les Français plus sur les médias qu'ils consultent le plus, est-ce qu'ils en ont confiance, est-ce que ces médias répondent à leurs attentes, on voit que les résultats sont beaucoup plus positifs et que finalement, les Français accordent quand même leur confiance à la plupart des médias qu'ils suivent, mais c'est une confiance aussi qui est sous condition.
Vous évoquiez les institutions, justement, pour nous qui chaque jour essayons d'éclairer l'actualité par les travaux des chercheurs, des scientifiques. Une donnée nous interpelle en particulier, 54% des personnes interrogées leur accordent leur confiance, c'est une majorité, sauf que ce chiffre enregistre en réalité un recul de 7 points par rapport à l'année dernière. Là encore, est-ce qu'il faut y voir une forme de défiance vis-à-vis des institutions dans leur ensemble ?
Effectivement, c'est aussi un signe d'une confiance aussi qui s'est sans doute assez dégradée ces dernières années par rapport aux scientifiques, notamment les scientifiques qu'on peut entendre dans les médias. Sans doute là, il faut y voir aussi l'impact de la période du Covid, où on a entendu beaucoup de scientifiques s'exprimer sur ces sujets, avec parfois exprimant des opinions ou des expertises tout à fait différentes, et ce qui a pu aussi perturber les Français et entamer leur confiance.
Lorsqu'on entre dans le détail de ce sondage, certaines données viennent malgré tout pondérer donc cette défiance que nous évoquons depuis tout à l'heure. Lorsqu'on les interroge sur les médias qu'ils utilisent, une majorité des personnes se disent confiantes envers l'information qu'ils reçoivent. Par ailleurs, 71% continuent de suivre l'actualité avec intérêt et plus de 8 personnes sur 10 affirment qu'ils s'informent quotidiennement. Comment est-ce que l'on explique ce paradoxe, au fond, entre d'un côté une estimation générale, donc plutôt négative, et puis de l'autre des usages individuels, au fond plutôt satisfaisants.
Tout à fait, et c'est là où il est intéressant de noter justement cette distinction entre les médias traditionnels, on va dire la presse, les journaux télévisés aussi, qui continuent de garder un vrai crédit de confiance. Et là, on voit aussi la prime à la proximité, parce que finalement, les médias qui suscitent le plus de confiance chez les Français, on le voit dans notre baromètre, et c'est quelque chose qui finalement évolue assez peu dans le temps, ce sont les journaux télévisés d'information, le 13h, le 20h, qui restent malgré tout, même si les audiences baissent, des rendez-vous traditionnels, des rendez-vous aussi de proximité qui créent de la confiance, et aussi très, très proche, la presse quotidienne régionale aussi, elle est perçue comme digne de confiance et aussi comme finalement parlant aussi de sujets qui touchent les Français.
La proximité constitue effectivement l'un des principaux critères donc sur lesquels repose cette confiance. Pour autant, plusieurs événements récents ont montré des prises à partie de médias locaux. Lundi dernier, c'était le cas avec des agriculteurs qui sont allés déverser une benne de paille devant la rédaction de la Nouvelle République à Châteauroux. Un journaliste d'ici Touraine a lui été carrément menacé lors d'un rassemblement la semaine dernière. Les médias locaux sont-ils associés au même grief que les médias nationaux ?
On peut le retrouver, effectivement. On peut voir que chez une partie des Français, mais c'est une partie minoritaire, il y a effectivement une forme de ras-le-bol assez fort à l'égard des journalistes. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on avait pu voir aussi au moment de la crise des Gilets jaunes, qu'on avait mesuré aussi dans notre baromètre. Il y a une partie, mais minoritaire, des Français qui peut exprimer de l'agressivité à l'égard des journalistes. Mais c'est là où il faut aussi distinguer les médias et les journalistes. Dans notre enquête, on voit aussi que les journalistes, ils ont quand même une bonne image auprès de une majorité de Français. On a seulement 34% qui ont une mauvaise image des journalistes. On leur reconnaît aussi un certain nombre de qualités, le fait d'être rigoureux, le fait d'être aussi, de savoir aussi de quoi ils parlent. En revanche, il y a une forme aussi d'éloignement qui parfois est déplorée à l'égard des journalistes. On a une majorité de Français qui trouvent que les journalistes sont éloignés des préoccupations des Français.
Il nous reste vraiment que quelques secondes. Votre baromètre cherche à identifier plusieurs leviers de confiance. Comment fait-on pour renforcer la crédibilité des médias ?
Alors, il y a trois leviers qu'on identifie bien dans notre baromètre. Il y a d'abord l'attente que les médias insistent davantage sur les faits plutôt que sur les opinions. Et ça, c'est vraiment une attente très forte des Français. Ce qu'ils attendent d'abord, c'est que les médias parlent des informations plus que d'opinions. Le deuxième, c'est la proximité dont on a parlé. Et le troisième point, c'est l'indépendance, donc des garanties d'indépendance et aussi de transparence sur la manière dont les médias sont financés.
C'est bien noté. Merci Guillaume Caline, directeur enjeux publics opinion chez Variant France, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, toujours marqué par un front pluvieux sur les côtes du nord-ouest du pays. Partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies quant aux températures. Elles seront comprises entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.